Projection débat à l'initiative de l'Union pacifiste, SNU acte 16, un film de 13 minutes réalisé dernièrement pour faire le point sur les dernières actualités du SNU, Service National Universel. Cette projection sera suivie d'un débat avec Bernard Bessa, réalisateur et militant de l'Union pacifiste, bien connu à Radio Libertaire, où il anime une émission. Et puis aussi en présence d'enseignants très investis aujourd'hui contre le SNU et le collectif non au SNU, dont Radio Libertaire est partie prenante. Pour conclure cette semaine, toujours au bénéfice de l'Union pacifiste, dimanche 26 novembre à 16h à la librairie Publico, vous êtes invité à assister à un concert de soutien à l'Union pacifiste de France. Le concert sera présenté par Bruno Daraki. Et 5 artistes seront au programme, donc une belle après-midi en perspective, avec Nathalie Solans, Pedro Fidalgo, Philippe Alterac, Rémi Tarrier et Fabienne Elkoubi. Donc ce dimanche 26 novembre à 16h, concert de soutien à l'Union pacifiste de France à la librairie Publico. Voilà, dans quelques instants, vous retrouverez Mohamed pour son émission. En attendant, un petit peu de musique.
Oui, alors l'émission de Mohamed, c'est la société dans tous ses états que nous allons retrouver très très bientôt. Et nous, pour Trou Noir, on va se quitter avec Eric Frasiak, Monsieur Boulot. Au revoir.
Monsieur Boulot, on te voit plus dans la région depuis un bail. T'es parti ou t'as disparu, à Kiev, à Pékin ou Shanghai. Nous on t'avait toujours connu, t'étais de toutes nos batailles. T'habitais juste au bout de la rue, t'as tout laissé pour ce travail. T'as pris avec toi tes affaires, tes tours, tes fraiseuses, tes camions. Maintenant l'usine c'est un cimetière et les 3-8 on tourne en rond. Si tu voyais comme c'est rouillé, la boutique où on s'est connu, bureau squatté, mur tagué et les cheminées qui ne fument plus. Monsieur Boulot, pour qui tu bosses depuis que tu nous as oubliés? Je sais pas si t'avais des gosses, mais les nôtres ils peuvent plus te saquer. Pôle Sud, Pôle Nord ou Pôle Emploi, on a beau y croire tous les jours, on te cherche partout mais on ne trouve pas. Et on commence à être à court après tout ce qu'on a fait pour toi. T'as même pas laissé un petit mot, t'as préféré partir comme ça. Ici on dit comme un salaud, j'espère qu'on te reverra un jour, que tu repasseras par chez nous. Et même si c'est plus trop de l'amour, on t'en voudra pas pour un sou. Monsieur Boulot, tu fais la course au bénéfice et au rendement. Et même si t'en as plein les bourses de tes dollars, de tes placements, tu te souviens plus comme c'était beau. Reviens faire un tour par ici, on rallumera les hauts fourneaux, l'accordéon sur nos samedis. Monsieur Boulot, qu'est-ce que tu deviens? La vie sans toi, c'est plus pareil. Depuis qu'on te voit plus dans le coin, on dort plus sur nos deux oreilles. Pour la communion du dernier, on aurait aimé que tu sois là. On doit même plutôt t'avouer que ce sera pas facile sans toi. On t'aimait bien dans le quartier, on comptait tous un peu sur toi. Pour la bagnole, pour le loyer, pour boucler la fin des 12 mois. Mais quand on te voit à la télé prendre la pause et faire le beau, on se dit que le fric t'a bien changé. Pourtant tu manques, pourtant tu manques, Monsieur Boulot.
Fermeture. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de la Société dans tous ses états sur 89.4 en région parisienne et sur radio-libertaire.org dans le reste du monde. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à l'antenne, au bout du fil, Jérôme Lamy. Jérôme, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es avec nous?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Jérôme. Voilà, la liaison est parfaite. Mirage de la technique. Jérôme, tu es sociologue des sciences. Et oui. Je t'ai invité à participer à cette émission pour nous parler d'un dossier que tu as co-dirigé dans une revue de sociologie que tu vas nous présenter après t'être présenté, une revue de sociologie qui s'appelle Zilzel, et le titre du dossier que tu as présenté et développé dans cette revue, qui date déjà de novembre 2022, ça fait un an, c'était le numéro 11 de la revue Zilzel, le titre de ce dossier, lorsque j'en ai pris connaissance, m'a tout de suite intéressé, « Science et anarchie, le drapeau noir de la raison ». Alors, tu es sociologue des sciences, hein, c'est bien ça?
Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis historien et sociologue des sciences. Je travaille principalement sur l'histoire des activités spatiales. Je travaille aussi beaucoup sur la question de la circulation des concepts. Et puis, je m'intéresse beaucoup aux matérialités savantes. Voilà. Et avec mon collègue et ami Arnaud Saint-Martin...
Que nous avions déjà invité ici même, il y a quelques années, pour nous parler d'une blague qu'il avait faite autour... Enfin, une blague, un canular autour de Maffezoli, hein, c'est bien ça. Hein.
Absolument, voilà, du canular Maffezoli.
Oui.
Avec Arnaud, on avait fondé, en 2013, un petit blog qui s'appelait le Carnet Zilzel, dans lequel on essayait, en quelque sorte, de faire connaître un peu un certain nombre de travaux en histoire et en sociologie des sciences, mais aussi en philosophie des sciences, en anthropologie des sciences, en essayant d'avoir une approche critique, une approche exigeante sur la question de la rationalité, sur la question de la cumulativité des savoirs. Et puis le site ayant eu une vie qui a relativement eu un bon développement, on a décidé de passer au format d'une revue. Donc on a une revue qui s'appelle Zilzel, alors je vais revenir juste après pourquoi elle s'appelle comme ça, qui paraît deux fois par an aux éditions du Croquant, dans lequel on essaye de présenter à la fois des recherches très actuelles sur les études sociales des sciences, alors voilà, ça concerne la sociologie, ça concerne l'histoire des sciences et des techniques, dans lequel on a des articles de fond, on a des articles qui sont plus orientés vers des formes de d'exploration de terrains nouveaux. On a des entretiens avec des chercheuses et des chercheurs aguerris qui nous racontent en quelque sorte leur parcours. Et puis on a des critiques d'ouvrages. Ça a toujours été le cœur de la revue, de se tenir au courant et d'avoir une lecture critique de ce qui se produit en quelque sorte dans le domaine de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie des sciences. Et puis pourquoi Zilzel? En fait, on a choisi ce nom-là parce que c'est un historien et un sociologue des sciences qui a fait une partie de sa carrière en Autriche dans l'entre-deux-guerres. Il s'appelle Edgar Zilzel. Il a fait notamment tout un travail autour de la notion de génie, de l'histoire de la notion de génie, en montrant que c'était une construction à la fois antique et à la période de la Renaissance. Et puis il était juif, il a donc dû fuir l'Autriche nazie. Il est parti aux États-Unis et là il a produit un certain nombre d'articles extrêmement importants sur l'histoire et la sociologie des sciences. Il était marxiste et donc il avait une vision de classe, en fait, de la façon dont s'organisait la science, notamment à l'époque moderne. Et malheureusement, il n'a pas trouvé de poste pendant son séjour américain et il a fini par se suicider dans les années 40. Et voilà, ce personnage a été un peu oublié. Nous, ça nous intéresser de le faire revenir à la mémoire, de se souvenir de son parcours, de l'intérêt qu'il avait pour une histoire des sciences sociales, matérielles, matérialistes. Et donc c'est pour ça qu'on a baptisé la revue de ce nom-là. Voilà.
Très bien. Alors, comment en es-tu venu, toi et Sébastien Plutniak, qui co-dirige avec toi ce dossier consacré au rapport entre science et anarchie, comment vous en êtes venus tous les deux à monter ce dossier et pour quelles raisons? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais te l'entendre dire.
En fait, avec Sébastien, ça fait déjà longtemps. Donc Sébastien, il est chercheur au CNRS, alors lui, à la fois en sociologie des sciences et en archéologie, il est aussi archéologue. Notre point de départ, c'était un questionnement autour des rapports entre science et anarchie, où d'une certaine manière, on voit se développer beaucoup dans les pays anglophones, mais aussi maintenant en France, beaucoup d'études autour du lien entre science et anarchie. Et ça nous a intéressés parce que, nous, c'est des problématiques qui nous intéressent. Ce sont des questionnements qui nous intéressent. Penser les rapports sociaux en dehors des rapports d'autorité, questionner et interroger la question du pouvoir, questionner la question de l'émancipation des individus par et dans la science. C'est des questions qui nous semblent à la fois actuelles et en même temps à réactiver en permanence, à réinterroger. Donc on a décidé d'une certaine façon de partir un petit peu, on va dire, pour cartographier ce champ un peu, ces questions relatives aux études de sciences et d'anarchistes. D'abord, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de thèses qui sont soutenues actuellement en études anarchistes en France, mais ça n'est pas fédéré. Il n'y a pas, par exemple, contrairement dans la sphère anglophone, il n'y a pas des études anarchistes. C'est une revue qui, en quelque sorte, fédérerait les choses. Donc ça nous a semblé aussi important de faire au moins dans un dossier un point sur ce qui se fait. Deuxièmement, le statut qui nous a aussi posé problème, c'est que quand on parle de science et anarchie, en général, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a un nom qui revient en permanence, celui de Paul Feyerabend et de son livre qui s'appelle « Contre la méthode », qui est présenté d'une certaine manière comme un petit peu la figure de proue du rapport entre science et anarchisme. Et ça nous posait problème. J'expliquerai pourquoi éventuellement.
On reviendra effectivement sur Paul Feyerabend plus tard.
Ça posait problème et donc du coup, on voulait revenir là-dessus. Ça, c'était le deuxième point. Puis, troisièmement, on s'est aperçu qu'il y avait des formes contemporaines d'antirationalisme qui grandissaient et qui étaient relativement inquiétantes et qui, parfois, pouvaient, d'une certaine façon, essayer d'emprunter à l'anarchisme sans connaître l'anarchisme et qui, d'une manière un peu cavalière, essayaient de s'en référer à l'anarchisme sans comprendre qu'il y avait toute une histoire de la relation entre science, rationalité et anarchisme qui remonte au XIXe siècle et qui avait toute son importance. Et donc, c'est un peu la même idée que ne pas oublier Zilzel, ne pas galvauder cette histoire de l'anarchisme et de son rapport aux sciences, qui nous semblait à la fois très importante et qu'il faut toujours bien contextualiser, bien rapporter, en quelque sorte, aux cadres sociaux dans lesquels il a pu prendre forme, et rappeler aussi son actualité. On a beaucoup, et c'est ça qui a permis de nourrir le dossier, on a beaucoup d'enquêtes actuelles, on a beaucoup de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui se lancent dans les études anarchistes aujourd'hui. Il y a peu de coordination en France, mais il y a une multitude d'études, et notamment sur la question scientifique, sur la question des rapports entre science et anarchie, ou anarchisme et science. Et il nous a semblé vraiment très important de les mettre en avant, d'essayer de comprendre pourquoi ça se réactivait aujourd'hui dans le champ des études sur les sciences, pourquoi ça résonnait autant. Et donc finalement, le dossier est une sorte de bilan d'étape de cette enquête-là qu'on poursuit de toute façon, auquel on continue de s'intéresser dans la revue Zilzel.
On est donc là dans un rapport positif, si je peux dire, entre science et anarchie. Et comme tu l'as souligné dans ton intervention, il y a effectivement aujourd'hui une méfiance ou un regard critique ou même parfois de rejet d'une science ou d'une certaine science dans nos milieux libertaires, anarchistes et plus largement les milieux de qui se situent dans ce qu'on appelle la gauche, l'extrême gauche, peu importe. Et il est important, je crois, de renouveler ce regard qu'on peut porter sur la science d'un point de vue anarchiste, mais aussi de comprendre le regard de la science sur l'anarchie.
Complètement. On a lu pendant le plus haut de la crise du Covid, qui n'est pas passé, je le rappelle, on a lu des choses dans les milieux libertaires qui étaient affolantes, c'est-à-dire qu'il y avait, sous prétexte d'un contrôle social qui existait, mais qui existe par ailleurs, on a lu des choses qui faisaient fi des plus faibles, de ceux qui avaient des immunodépressions, de ceux qui ne pouvaient pas se défendre avec leur immunité contre le virus, et on a vu au nom de ça des discours un peu délirants sur une espèce de science qui ne serait qu'une contrainte, qui ne serait qu'une autorité. La science aussi, elle nous permet d'éclairer. Alors, il y a un certain nombre de groupes en marge dans la gauche radicale et dans l'anarchisme qui vont avoir une vision extrêmement critique et à juste titre de la technoscience, du développement en lien avec le capitalisme, par exemple, des forces scientifiques et des forces techniques au point de constituer des cadres contraignants, etc. Mais en même temps, ils jettent par-dessus bord toutes les formes de rationalité, toutes les formes de probation, toutes les manières dont on peut administrer des preuves, etc. Et en fait, finalement, ils passent du côté d'une certaine manière anti-scientifique, anti-rationnel, au nom du fait que la science est une sorte de contrainte à laquelle on serait soumis toutes et toutes. Et en fait, il me semble que c'est une espèce de discours un peu infantile et un peu et en même temps un peu facile qui consiste à dire puisque la science est un discours d'autorité, ça fait partie de toutes les autorités. C'est mal connaître la science. Une des choses qui nous a poussé à faire ce dossier, c'est justement que voir dans la science une seule figure d'autorité ou de dogmatisme, c'est mal connaître comment c'est constitué et comment c'est organisé le champ scientifique tout au long de l'histoire. Précisément, le début de l'époque moderne, au moment où on commence à mettre en place un discours scientifique, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on a commencé à remettre en question les autorités, et en particulier les textes antiques. On a remis en question les dogmes, mais on a commencé à interroger, et la science ne produit que des vérités qui sont révisables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apportez une nouvelle preuve, eh bien, l'ancienne proposition ne fait plus droit. Donc, au contraire, c'est des formes de discours qui sont révisables en permanence par toute une série de procédures, d'expériences, d'utilisation des instruments, etc., qui vous permettent de réviser des résultats qui ont été obtenus. Alors, ça n'invalide pas le fait qu'on a une utilisation des forces scientifiques, technologiques, à des fins d'oppression, à des fins d'autoritarisme, de dogmatisme, de centralisation, etc. Mais les deux choses se construisent, faire croire qu'elles sont consubstantielles, c'est, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un discours un peu infantile et un discours qui est historiquement assez peu fondé, enfin assez peu étayé, et d'une forme de facilité et qui amène à penser que, par exemple, quand on voulait se protéger du Covid, ben, d'une certaine manière, on était, quand on veut se protéger du Covid aujourd'hui, on est traité de moutons, de je sais pas quoi, de personnes qui se soumettent, etc. Alors que, bon, on regarde juste les faits scientifiques, on essaye de protéger les plus faibles, et je pense qu'une partie du discours anarchiste qui vise à ne pas, justement, réitérer l'oppression et l'autoritarisme, ben, il doit prendre en compte cette dimension-là, il doit prendre en compte le fait que la science et les productions scientifiques nous indiquent un certain nombre de choses, par exemple sur le Covid long, qui peut être très dangereux, par exemple sur les immunodéprimés, qui sont vraiment très à risque, toutes les populations sont à risque, par exemple pour le Covid long, et donc à avoir ce souci politique d'un usage de la science qui permet aux plus faibles de vivre d'une certaine façon.
Pour aller dans ton sens, Jérôme, je tiens à signaler à nos auditeurs l'excellent travail qu'accomplit le site Cabriole au pluriel, Autodéfense sanitaire face au Covid-19. C'est un collectif qui s'est constitué il y a 2 ans, qui s'est emparé de ces questions justement de protection face aux risques que fait endurer le virus à l'égard en particulier des personnes les plus faibles ou les plus sujette aux complications liées à cette maladie. Cabriole, on tape sur n'importe quel moteur de recherche, autodéfense sanitaire face au Covid, et c'est un collectif qui se dit libertaire et qui fait circuler une information rigoureuse et scientifique sur ce sujet.
Absolument, ils sont d'utilité publique.
Exactement. On va revenir un petit peu à l'histoire. D'abord, le dossier est conséquent, hein, puisqu'il fait un peu plus de 100 pages. Hein. Il y a plusieurs entrées, plusieurs auteurs. Hein. On va essayer de parcourir au fur et à mesure de notre entretien l'ensemble de ces des questions qui sont traitées. Lorsqu'on évoque science et anarchie, spontanément, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, je pense aux deux grandes figures de l'anarchie de la fin du 19e siècle et du tournant du 20e siècle, que sont Élisée Reclus et Kropotkine.
Oui, bien sûr. La science, les savants anarchistes sont nombreux et dès le 19e siècle, mais immédiatement les figures un petit peu dominantes, ce sont les géographes. et c'est pas anodin que ce soit des géographes que sont Élisée Reclus et Pierre Kropotkine. Pour en dire deux mots, Élisée Reclus, c'est un géographe particulièrement prolixe. Alors, il naît dans une famille protestante, et puis il a une appréhension de la géographie, je dirais, par le corps, c'est-à-dire qu'il voyage. D'abord avec son frère, il se déplace, il voyage énormément, il fait des relevés cartographiques, et puis il essaye de comprendre les endroits où il passe, il les décrit. Il va faire une œuvre en 19 volumes qui s'appelle Nouvelle géographie universelle, un ouvrage considérable. Alors, c'est pas l'ouvrage dans lequel il y a le plus d'éléments qui ont trait à son esprit libertaire. On va davantage le retrouver dans un autre ouvrage en 6 volumes qui s'appelle L'homme et la terre, qui est absolument remarquable. Il a aussi publié des guides de voyage, mais c'est toujours dans l'idée à la fois de comprendre, notamment dans L'homme et la terre, non seulement la question de la géographie, mais cette géographie, elle est toujours sociale et politique. Elle est toujours articulée, la façon dont les hommes se distribuent dans l'espace, dont ils exploitent les ressources, elle est toujours articulée aux formes de pouvoir, aux structurations sociales et politiques et techniques. Élisée Reclus, c'est quelqu'un qui a pris part à la Commune de Paris et qui va connaître l'exil. Donc il a vécu, on va dire, sa conviction anarchiste concrètement et dans la lutte. Et dans l'introduction de L'homme et la terre, il va poser que, d'après lui, les trois points d'ancrage de son travail de géographe, c'est la question de la lutte des classes, la question de l'équilibre entre les forces et de l'émancipation des individus. Alors lui, il n'emploie pas le terme émancipation, il a l'expression décision souveraine des individus, mais on comprend bien l'idée. Ça, c'est très important parce que Reclus, il va d'une certaine manière, proposer une sorte de première approche anarchiste. Et puis, évidemment, il y a Pierre Kropotkine, qui était un prince russe. Pareil, on n'est pas non plus dans le même schéma social. Hein. D'un côté, on a un protestant qui voyage, et de l'autre, on a un prince russe qui voyage aussi. Mais lui, il a été beaucoup plus direct dans sa façon d'associer science et anarchie. En 1913, il va publier un ouvrage très important qui s'appelle « La science moderne et l'anarchie ». Et il a essayé, lui, vraiment, c'est ça le point le plus important chez Kropotkine, parce qu'il est très au fait, il faut voir les géographes anarchistes comme très au fait de la science de leur époque, et il va essayer de relier les sciences naturelles, notamment la question du darwinisme, à l'anarchisme, et il va essayer d'avoir toute une réflexion sur l'entraide, d'ailleurs ça va être le titre d'un de ses livres, dans l'entraide, où il montre que les espèces, il lit très bien Darwin, il montre que Darwin, c'est pas la struggle for life, la lutte pour la vie, c'est pas, ça veut pas dire qu'on doit écraser les autres. Ça veut juste dire que dans des situations où les conditions ne sont plus optimales pour telle ou telle espèce, elles disparaissent, mais qu'elles peuvent s'entraider. Et ça, c'est central dans la pensée de Kropotkine.
Et dans le livre, excuse-moi de t'interrompre, le livre de Darwin, le plus important à cet égard, c'est celui qui est le moins connu, malheureusement, La filiation de l'homme.
Absolument, voilà. Absolument. Donc, c'est celui qui, de ce point de vue, fournit un certain nombre d'éléments pour avoir une pensée anarchiste, une pensée libertaire, qui fait droit aux arrangements entre les êtres, à la façon de s'entraider, etc. Absolument.
Attention, on n'est pas en train de faire de Darwin un libertaire ou un anarchiste.
Pas du tout. Mais l'intérêt de Kropotkine, c'est qu'il en a une lecture anarchiste.
C'est ça.
Il en a une lecture libertaire. Alors, c'est très intéressant, parce que Darwin est très lu, par exemple, par Marx. On sait que Marx l'a lu abondamment, et il trouve des choses tout à fait intéressantes. Et il est intéressant qu'à la même époque, les ouvrages de Darwin aient eu autant de retentissement chez les penseurs politiques de l'époque. Ça montre à quel point c'était une œuvre à la fois fulgurante et qui proposait des bases de réflexion pour l'organisation des sociétés humaines sur des fondements qui étaient ouverts, et donc potentiellement ouverts à la question de l'émancipation et donc de l'anti-autoritarisme.
Donc ces deux personnages principaux que sont Reclus et Kropotkine sont vraiment des marqueurs très très importants dans l'évolution de la pensée anarchiste et dans ses rapports avec la science. Mais alors j'ai appris quelque chose d'assez extraordinaire dans ce dossier, c'est Louise Michel qui elle aussi s'intéressait à la science et qui avait lu, semble-t-il, Darwin.
Oui, Louise Michel, alors ça c'est une des contributions du dossier, elle est de Florian Mathieu. Qui a soutenu sa thèse l'année dernière. Il a beaucoup travaillé sur la question de l'astronomie et des libertaires. Et on s'aperçoit dans son travail, il s'est aperçu notamment en retrouvant des manuscrits qui avaient été oubliés de Louise Michel, comment elle avait beaucoup travaillé sur la question, en fait, en quelque sorte, du lien entre, on va dire, elle avait fait une encyclopédie où elle aborde la question astronomique sur l'idée de, il y a une harmonie universelle dans le cosmos, et cette espèce d'harmonie-là, elle doit se retrouver dans les formations humaines sur Terre, dans les sociétés humaines. Cette grande idée de l'analogie entre, on va dire, la formation du cosmos, l'organisation des planètes, l'organisation des astres, et finalement la structuration idéale des sociétés libertaires, elle se retrouve vraiment dans la pensée anarchiste des astronomes anarchistes de l'époque. Hein, il y a le cas que montre très bien Florian Mathieu, c'est un aristocrate né en Estonie, qui s'appelle Frédéric Stackelberg, qui étudie les mathématiques, il va faire beaucoup de conférences, etc. Mais il est passionné d'astronomie, il a écrit un ABC de l'astronomie qui est paru en 1905, où il démontre l'importance de la rationalité. Et Stackelberg est lui aussi persuadé qu'on doit pouvoir faire une analogie entre la façon dont s'organisent les astres et la façon dont, finalement, on doit trouver une harmonie humaine sur Terre. Il parle de république solaire pour évoquer les planètes dans le système solaire. Donc là, il y a un lien qui est très fort entre l'ordre cosmologique et l'ordre politique libertaire. C'est vraiment quelque chose auquel Louise Michel va participer. Et c'est quelque chose qui traverse vraiment profondément la pensée libertaire de ceux qui s'intéressent en particulier à l'astronomie. On a cette force du lien entre la façon dont l'univers est gouverné par les forces naturelles et la façon dont on devrait sur Terre, en tant que société humaine qui aspirerait à ne pas être soumise à l'autorité, on devrait s'organiser. Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et Florian Mathieu, dans sa thèse, et là, dans l'article qu'il donne pour la revue, le montre magnifiquement à partir, je le répète, d'archives inédites. C'est ça qui est tout à fait intéressant à propos de Louise Michel, et je pense qu'on n'a jamais fini d'en découvrir à propos de Louise Michel. Elle a une pensée scientifique savante. Elle faisait des tournées de conférences, on le sait, mais dans certaines de ses conférences, elle parlait de la question scientifique. Oui. Quand elle se trouve en exil en Nouvelle-Calédonie, elle essaye de correspondre avec des savants naturalistes de l'époque pour herboriser en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a chez Louise Michel une vraie pulsion savante qu'elle organise en pensant à la question politique. C'est ça qui est le plus intéressant, il me semble.
Oui, le titre de ces manuscrits qui ont été donc mis au jour, là, c'est « Lecture encyclopédique par cycle attractif hein, », c'est ça le...
Absolument.
Hein, et c'est aussi une époque où Camille Flammarion, donc l'astronome, va avoir une grande popularité. Enfin, il va vulgariser la science astronomique et les anarchistes vont s'en emparer, mais beaucoup d'autres. Hein.
Absolument. Hein. On est dans une époque, là, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, où l'astronomie va connaître une forte popularisation. On va notamment avoir un certain nombre de... Alors, c'est ce que montre Florian Mathieu. Lui, il a réussi à montrer, par exemple, qu'il y a un certain nombre d'ouvriers qui vont essayer de donner des conférences astronomiques, parce qu'ils s'emparent, les ouvriers, alors, libertaires, ou en tout cas assez proches de ces milieux-là, qui s'emparent de ces questions-là et qui veulent avoir une pratique scientifique, qui veulent défendre une popularisation de la science. On est dans un mouvement de bouillonnement intellectuel sur ces questions-là. On a quelque chose qui, d'une certaine façon, est en train de redynamiser la popularisation de la science. On sait aussi qu'il y a un moment où le milieu ouvrier, en fait, avant la Commune de Paris, après la Commune de Paris, a tenté des formes d'auto-organisation. C'est des moments où on a des conférences partout.
Les universités populaires, les bourses du travail.
Les bourses du travail, les universités populaires, des lieux comme ça où on commence à faire circuler des savoirs. Il y a tout le travail que Jacques Rancière avait montré sur la nuit des prolétaires, sur la façon dont on va rogner sur son sommeil pour essayer à la fois d'en savoir plus, de connaître davantage. Il y a un goût, il y a une appétence pour le savoir, il y a la volonté de se l'approprier aussi. C'est-à-dire dans ces milieux-là, de ne pas simplement le laisser à des professeurs, à des autorités, mais aussi d'apprendre par soi-même, de se transmettre et d'échanger le savoir. Et le milieu libertaire à ce moment-là, notamment sur la question astronomique, est très en pointe sur ces questions-là et arrive à d'une certaine façon à actualiser cette science-là, à la mettre à disposition du plus grand monde. Je parlais de l'ABC de l'astronomie de Stackelberg tout à l'heure. C'est un ouvrage comme ça qui est dédié à la communication au plus grand nombre pour essayer de faire comprendre. Donc il y a tout un tas comme ça d'associations, d'institutions en quelque sorte libertaires qui vont arriver à faire circuler, et pas simplement libertaires, mais les libertaires ils prennent une grande part à faire circuler comme ça des savoirs parfois très actuels. On va discuter des théories les plus fréquentes, quitte à vouloir les réfuter, pas toujours en ayant les moyens, mais c'est très intéressant de voir à quel point ce milieu libertaire-là, entre la fin du 19e et le début du 20e, est vraiment en pointe, et vraiment en pointe sur cette réflexion-là et sur la circulation de cette compétence astronomique.
Oui, Stackelberg va participer aussi à l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure dans l'Entre-deux-Guerres.
Absolument.
On va faire une pause musicale et on se retrouve, Jérôme, juste après cette pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération anarchiste. Toujours Radio Libertaire, la voix du maître de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. On vient d'écouter un titre du groupe Bad Religions. Le titre s'intitule New Dark Ages. Il est extrait de l'album New Maps of Hell. Alors, Jérôme, j'aimerais que tu nous dises un petit mot sur ce groupe et surtout sur son leader, chanteur, compositeur.
Oui, c'est Greg Graffin qui est le leader de Bad Religions, qui a lui-même soutenu une thèse de zoologie à l'université de Cornell, qui a enseigné la paléontologie à l'université de Californie à Los Angeles, et qui est vraiment pénétré de science. Et voilà, son groupe fonctionne depuis les années 80, et c'est vraiment un des tenants de la culture punk californienne. Il a été patron du label Epitaph, et puis il a eu cette réflexion, parce qu'il a une forte réflexion sur les liens qu'il fait entre sa pratique de la musique et sa pratique de recherche. Il a fait une thèse, il a écrit un livre qui s'appelle Anarchy Evolution, avec un journaliste qui s'appelle Steve Olson. Ils ont écrit ce livre dans lequel il essaye de montrer les liens entre la création intellectuelle et la liberté que ça lui donne, et aussi le fait d'être dans un monde sans Dieu, n'avoir aucune autorité religieuse au-dessus de lui. Faut vous rappeler, il est américain, donc aux États-Unis c'est pas un discours simple à tenir, enfin pas systématiquement simple à tenir. Et donc du coup il a il a produit cette réflexion-là, qu'il continue à mener, qu'on retrouve parfois dans ses chansons, avec l'idée que voilà, la question de la science et la question du lien entre la création artistique et la science est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'on a noté avec Sébastien, en fait, en commençant un peu à rédiger ce dossier, c'est qu'on retrouve le lien entre science et anarchisme dans beaucoup de milieux punk. Par exemple, il y a un autre chanteur du groupe The Descendants qui s'appelle Milo Ackerman, qui a rédigé une thèse de biologie moléculaire et qui a produit beaucoup d'articles scientifiques. De façon un peu plus annexe, il y a Dexter Holland, qui est le membre fondateur de Offspring, qui a soutenu une thèse à l'Université de Californie du Sud, lui aussi en biologie moléculaire. Alors, tout le monde ne fait pas le lien entre science et anarchisme systématiquement, mais ne serait-ce que l'exemple de Graphene est assez saisissant. Puis en France, on a l'exemple fameux de François Guillemot, qui est ancien chanteur des Béruriers Noirs, qui est aujourd'hui ingénieur de recherche au CNRS. C'est un grand spécialiste de l'histoire du Vietnam. Donc, à chaque fois, il n'y a pas le lien qui est forcément fait entre pratique anarchiste et science. Mais, voilà, on s'est interrogé, on s'est posé la question à un moment donné dans l'introduction, est-ce que c'est si étonnant que ça? Ou bien est-ce que ce n'est pas la poursuite aussi d'une forme contemporaine du rapport au long cours entre science, anarchisme et création artistique? Finalement, ce triptyque-là, science, anarchisme, création artistique. Finalement, est-ce que, voilà, on s'est interrogé, alors on n'est pas allé plus loin que ça, mais ça mérite à notre avis d'ouvrir un questionnement là-dessus, peut-être d'autres analyses, parce que c'est assez symptomatique qu'il n'y a peut-être pas d'autres grands courants, on va dire, dans le rock, que les punks qui ont cette espèce d'appétence pour la science.
On va aborder maintenant, si tu le veux bien, on va dire un petit peu le cœur, le noyau un peu dur du dossier, qui est donc la partie écrite par Jay Michaud, qui concerne Feyerabend. D'abord, nous rappeler qui était Paul Feyerabend, à quel moment, quelle époque il a vécu, et quels sont quel est son background, enfin son arrière-plan, si on veut.
Paul Feyerabend, c'est un philosophe des sciences d'origine autrichienne qui est ensuite parti aux États-Unis, et il a, dans les années 70, publié un ouvrage qui a été très marquant, qui s'appelait « Contre la méthode », qui était sous-titré « Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance ». Alors c'est souvent pour ça qu'il est cité comme étant un des représentants de l'anarchisme dans le domaine de la philosophie et de la philosophie des sciences. Et en fait, Jay Michaud va s'intéresser à la question de savoir si Paul Feyerabend est en quelque sorte un anarchiste cohérent, parce qu'il prétend être un anarchiste scientifique, mais la question est de savoir, c'est est-ce que son anarchisme scientifique est adossé à un anarchisme politique? Alors on sait que Feyerabend, dans sa correspondance avec à la fois son grand ami et son grand opposant intellectuel qui s'appelait Imre Lakatos, on sait dans la correspondance qu'il dit Feyerabend qu'il aimait beaucoup Bakounine. Apparemment, il aime beaucoup Bakounine. Mais, d'une certaine manière, il aime Bakounine parce qu'il retient de l'idée de Bakounine que Bakounine refuse l'imposition de quelque idée que ce soit, de quelque contrainte que ce soit. Et en fait, Feyerabend, dans tous ses écrits, est absolument obsédé par l'idée que il ne faut pas que la science puisse commander les individus. C'est vraiment son idée. Et en fait, quand on lit attentivement son ouvrage « Contre la méthode », en fait, il n'est pas très attiré par les théories libertaires. D'ailleurs, il le dit lui-même, il rapproche sa propre position du mouvement artistique Dada. L'anarchisme de Paul Feyerabend, c'est en gros, vous n'avez pas à avoir de contraintes sur la façon dont vous faites votre recherche. On étudie tout comme on veut. Mais dans le cadre dans lequel il envisage cette liberté de faire de la recherche, c'est une espèce de pluralisme un peu permanent. Tout est discutable, tout est critiquable. Mais en ce qui concerne la façon dont ça devrait politiquement se traduire, Feyerabend, il n'a rien de déterminant ni de précis à dire. En gros, lui, il faut toujours expérimenter une nouvelle forme politique. C'est une sorte, d'une certaine façon, c'est un anarchiste épistémologique un peu, d'une certaine façon, assez limité, parce qu'en gros, son principe, c'est vous expérimentez tout, mais il ne précise pas dans quelle forme, de quelle façon, etc. De l'autre côté, il y a bien quelque chose qui est anti-autoritaire chez lui, mais c'est une forme d'anti-autoritarisme qui, pareil, un petit peu à la manière de ce qu'on disait tout à l'heure sur le Covid ou sur la critique systématique de la science, c'est une sorte de, d'anarchisme qui n'a pas, qui ne se donne pas ni de conduite, ni d'objectif, etc. Et sur le plan politique, bah, d'une certaine façon, bon, il n'était pas absolument contre, par exemple, l'existence de l'État, mais de fait, on ne sait pas exactement ce qu'il pense, et Pierre Michaud montre bien qu'il ne s'inscrit dans aucune tradition politique claire de l'anarchisme. Oui. Donc, c'est un peu usurpé de parler d'anarchisme. Pour lui, à la limite, je dirais que c'est un peu de l'épate bourgeois, quoi. D'une certaine façon, il utilise le terme anarchisme pour faire peur, hein, éventuellement à ses adversaires philosophiques. Mais au fond, ça n'est pas un anarchiste au sens qu'on l'entendrait, nous. Et donc, du coup, ça nous a semblé intéressant dans ce dossier de demander à Pierre Michaud de faire un peu ce bilan autour de Peyrabanne, parce que c'est quelqu'un qui voilà, est souvent présenté comme le représentant de l'anarchisme en science. Et en fait, quand on regarde de près, il y a une forme d'anarchisme épistémologique, mais qui n'est pas cadré, qui, d'une certaine façon, en dehors de l'anti-autoritarisme un peu systématique, ne produit pas beaucoup de choses sur l'émancipation, hein, par exemple, et qui, du point de vue politique, est très filandreux, pour le dire vite, et qui ne produit pas des choses particulièrement, disons, particulièrement développées. Ça n'empêche pas qu'il faut dire aux gens de lire Feyerabend, parce que c'est toujours intéressant et important, ne serait-ce que pour pouvoir le critiquer, de le lire, que Feyerabend a eu une contribution intéressante dans la philosophie des sciences, qu'à un moment donné, il a représenté quelque chose. Mais aussi d'en connaître bien les limites et de montrer que, voilà, en faire un philosophe anarchiste des sciences, c'est vraiment exagérer beaucoup. En tout cas, c'est ce que montre très bien Pierre Michaud.
Justement, cette partie, c'est une sorte de démystification un petit peu du personnage et de son ouvrage. L'auteur donc de Pierre Michaud, il cite un autre auteur qui s'appelle Agassi, qui avait publié il y a quelques années une sorte de contre Feyerabend, en quelque sorte.
Oui.
Mais non, on retrouve des choses. Il dit, Feyerabend dit dans son ouvrage, la science est une entreprise essentiellement anarchiste. Donc il reprend quand même quelques thématiques comme ça, mais il fait preuve aussi, selon Pierre Michaud, d'un relativisme épistémologique radical. Comment on peut concevoir ça? Quels sont les il faut rappeler quand même qu'il est en opposition à Popper, hein, l'un des philosophes des sciences du début du XXe siècle, donc a posé un petit peu les cadres de la démarche scientifique. Comment on peut essayer de cerner un petit peu plus ce personnage lorsque dans une esquisse de type de société, il va jusqu'à autoriser des sous-sections dans lesquelles on pourrait faire des chasses à l'homme?
Oui, voilà. Hein. En fait, c'est un peu son. En gros, l'idée même de la vie et de la mort, c'est en ça que je dis qu'il a pas de, qu'il n'est pas conséquentialiste du point de vue anarchiste. C'est-à-dire, même l'idée de la vie et de la mort, si des gens ont choisi de se laisser tuer par d'autres, bon, bah, il n'y aurait pas de problème. C'est vraiment une aberration du point de vue de la pensée politique anarchiste. On a évidemment le respect du vivant, le respect des plus faibles. Donc, voilà, il est dans cette espèce de, bah, je vais dire le mot, de délire un peu. J'ai dit tout à l'heure des pas de bourgeois, de radicalité, mais de pseudo-radicalité, c'est une radicalité de talent. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait, par exemple, il se vante dans sa... Il a écrit une biographie qui s'appelle « Tuer le temps », dans lequel il se vante, les jours où il y avait grève sur les campus en Californie, dans les années 60-70, de faire cours ce jour-là, précisément pour essayer d'être absolument contre tout ce qui venait, une espèce d'esprit de contradiction permanent. Tout ce qui venait, tout ce qui s'imposait à lui, il voulait être contre systématiquement. Donc, c'est pas très réfléchi. C'est pas une, c'est une espèce d'opposition de principe, un peu, c'est une sorte de position un peu petite bourgeoise qui consiste d'une certaine façon à avoir tranquillement la possibilité de contrer quoi que ce soit parce qu'on est en danger de rien, d'une certaine façon. Donc, il n'y avait pas un enjeu politique, c'est ce que montre Pierre Michaud. Derrière, il n'y a pas une idée politique très forte selon laquelle on pourrait faire de la science quelque chose qui systématiser le fait qu'elle soit au service des plus pauvres, au service des plus démunis, au service des plus fragiles. C'est pas cette idée-là. C'est l'idée, mais qui n'est pas inintéressante non plus, que tout discours dogmatique doit pouvoir être mis en cause. Et de fait, d'une certaine façon, c'est un point qui est important en science. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, toutes les vérités proposées, ici et maintenant, sont révisables. Et donc, du coup, ça, c'est un point de vue important. Mais pour le reste, Yoram Abraham est assez inconséquent du point de vue politique et même extrêmement dangereux, comme vous citiez l'exemple de l'autorisation des chasses à l'homme pour les volontaires. On voit bien qu'on est dans une sorte de... Voilà, c'est des choses qu'on va retrouver chez les anarcho-capitalistes.
Les libertariens.
Les libertariens, Javier Milei vient d'être élu, c'est le genre de délire jusqu'au boutiste, complètement délirant, et qui mène tout droit au fascisme, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, c'est plutôt dangereux ce genre de positionnement politique inconséquent. L'anarchisme, c'était pas on fait n'importe quoi. L'idée de Feyerabend, c'est qu'il n'y a aucune autorité, il n'y a rien, mais en fait, la science n'est pas forcément une autorité, elle ne nous impose pas. La loi de la gravitation, elle va nous indiquer quelle va être la trajectoire des projectiles. Elle ne nous impose rien, d'une certaine façon. Il y a ces lois-là qui existent et qui nous montrent comment fonctionne le système solaire, par exemple. Et donc, du coup, lui, il le voit comme une espèce de transposition à une contrainte qui s'imposerait à nous. Et par pur esprit de contradiction, il va essayer de montrer que ce n'est pas aussi simple, etc. Alors, ce faisant, il va effectivement débusquer des discours d'autorité qui n'ont pas lieu d'être. Mais en même temps, tout ça est enrobé dans une espèce de non-théorie politique, ou quelque chose de très bâclé, de très... une sorte de jusqu'au boutisme libertarien qui n'a aucun intérêt, et en tout cas n'a rien à faire avec la théorie politique anarchiste. Je pose la question des moyens pour arriver à ces fins qui sont l'anti-autoritarisme, la question de l'émancipation des individus, la question des plus faibles et des... et de la façon dont on peut les protéger. C'est quelque chose qui est totalement étranger à la pensée de Feyerabend.
Donc on a évacué en quelque sorte cette question autour de Feyerabend. Un autre élément qu'on retrouve aussi et qui moi m'a surpris, mais il est tout à fait intéressant, c'est la présence donc de Bourdieu dans ce dossier, oui. Pierre Bourdieu, et le titre du chapitre qui lui est consacré, c'est « Bourdieu était-il un penseur libertaire ?» Je me permets de te poser la question.
C'est Maxime Tijoux, qui est chercheur au CNRS aussi, qui est sociologue, qui s'est intéressé à ça. Ça fait Maxime Tijoux travaille notamment sur, en particulier, les entreprises qui sont en auto-organisation, en autogestion, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une excellente connaissance de la façon dont s'organisent un peu les formes de partage, de socialisation du travail. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la façon dont Bourdieu s'est saisi ces pensées-là. Et il montre dans son article que Bourdieu a une certaine sensibilité assez forte, assez constante dans son œuvre à la question de l'autogestion politique. Et notamment la façon dont Bourdieu s'intéresse à l'État tout au long de son œuvre, et ça a varié. Le début de son travail, on le sait, sur la question de l'école, qui était considérée comme un espace de reproduction de la domination, puisqu'elle peut naturaliser les catégories produites par l'État. Et d'une certaine façon, Bourdieu montre, et c'est très important du point de vue des sciences sociales, que l'État structure en grande partie nos manières de penser. Donc l'État est, dans sa théorie des champs, il appelle ça un méta-champ, c'est-à-dire c'est là où il y a le plus de concentration de capital pour administrer toutes les autres formes de capital. Donc l'idée de Bourdieu, c'est de dire voilà, il y a bien cet effet de domination que la théorie anarchiste va contester. La théorie anarchiste va contester la domination en surplomb de l'État. Et donc Bourdieu va critiquer le fait que l'État permet à ce que Bourdieu appelle la noblesse d'État, c'est-à-dire les élites, d'universaliser, c'est-à-dire de rendre universel ses propres intérêts, et donc d'utiliser l'État à cette fin-là. Et ensuite, à partir des années 90, et c'est ça que montre Maxime Tijoux, d'une certaine façon, et en lien avec l'avancée néolibérale en Europe et en France en particulier, va en quelque sorte densifier encore sa conception de l'État, cette fois en nuançant un peu sa première critique, parce que cette fois il va prendre en compte ce qu'il appelle la main gauche de l'État, c'est-à-dire les infirmières, les enseignantes, tous ceux qui vont prendre soin des plus faibles. Et donc, là, on est dans un moment où il voit bien qu'il y a une main droite de l'État, d'une certaine façon, qui est celle qui fait des effets de domination massifs, et il y a une main gauche de l'État. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à pratiquer une critique de l'État, notamment, d'une certaine façon, par la question, on va dire, de l'autonomie et de l'autogestion. Et on sait que Bourdieu, à la fin des années 70, au début des années 80, en même temps que le philosophe Michel Foucault, s'est rapproché d'un certain nombre de positions de la CFDT de l'époque, et pas la CFDT d'aujourd'hui, qui était une formation dans laquelle il y avait un certain nombre de militants qui avaient des formes d'inspiration anarchiste et qui défendaient une forme d'autogestion assez forte. Et Maxime Pijoux montre que dans ses travaux, au même moment où Bourdieu aborde les travaux sociologiques et au même moment où il se rapproche des positions de la CGT autogestionnaire, il va être très attentif aux questions de microcosme, aux espaces sociaux qui sont les moins dépendants du champ du pouvoir, à ceux qui parviennent le mieux à s'extraire des conditions de domination des champs de pouvoir. Et en particulier à partir des grandes grèves de 95, donc c'était son intervention au moment des grandes grèves, Bourdieu va lui-même mener des initiatives pour défendre ces microcosmes-là, qui sont un peu à distance, au maximum, qui défendent leur propre autonomie. Comme, il y a eu les états généraux du mouvement social, auquel il a beaucoup participé. Il y a une association dans laquelle il s'est beaucoup engagé, qui s'appelle Raison d'agir, et qui a donné une maison d'édition. Et là, il s'est forcé de faire quelque chose, c'était des formes de microcosmes, dont il essayait de faire en sorte, dans ses petits livres Raison d'agir, de la collection Raison d'agir, de faire en sorte qu'ils soient les plus à distance possible du pouvoir, ou du moins qu'ils puissent objectiver la façon dont le pouvoir avait des emprises sur tel ou tel objet de sciences sociales. Donc on voit là que, d'une certaine façon, il est passé d'une critique de l'État, alors nuancée, à aussi une mise en pratique d'un certain nombre de formes d'autogestion, notamment dans la production éditoriale, quand il a considéré qu'il ne pouvait que passer que par sa propre maison d'édition, Raison d'agir, pour fournir des petits ouvrages qui étaient autant de moyens à la fois de faire transmettre les sciences sociales au plus grand nombre, à des prix qui étaient relativement bas et qui permettaient à tout le monde de s'en saisir, de s'en emparer et d'y réfléchir. Et il a eu besoin, d'une certaine façon, de cet esprit autogestionnaire et libertaire. Voilà ce que montre Maxime Pijoux. C'est une réflexion intéressante et qui mérite d'être, disons, d'une certaine façon, réexaminée de tous les points de vue possibles, parce qu'elle montre que la réflexion sur l'État, la réflexion sur l'autogestion et sur la façon de s'organiser à distance des pouvoirs, elle traverse d'une certaine façon les penseurs de progressistes et les penseurs qui ont une idée des formes sociales d'émancipation.
Juste rappeler en passant que Pierre Bourdieu était venu dans le studio de Radio Libertaire, je pense dans les années 95-96, pour justement présenter son soutien et sa contribution au mouvement social. Il n'en est pas question dans le dossier, mais j'aimerais quand même qu'à ce stade donc de notre discussion qu'on aborde un petit peu l'organisation sociale de la science à travers un auteur très important qui est Robert Merton et qui va donner quelques éléments de compréhension de qu'est-ce que c'est que la science en tant qu'institution. Et en tant qu'organisme fonctionnant au sein de la société, qu'est-ce que c'est que cette institution scientifique et sur quoi on peut l'asseoir pour comprendre quels sont ses buts, ses objectifs, ses moyens ? Est-ce que tu peux nous présenter ?
Alors, oui, clairement, Robert Merton, c'est un sociologue qui a une très grande longévité parce qu'il a soutenu sa thèse en 1935 et il est mort au début des années 2000. C'est un sociologue qui a, en particulier un sociologue des sciences, qui a eu une influence considérable, qui a, d'une certaine façon, organisé les débuts de la sociologie des sciences. Il a fait une thèse absolument importante sur la science en Angleterre au XVIIe siècle, où il a montré, en particulier, à la suite de Max Weber, qu'il y avait une forme d'affinité élective entre la pratique scientifique du début du XVIIe siècle et les puritains, les sectes puritaines anglaises, dont il a retrouvé des membres dans la Royal Society de l'époque, l'Académie anglaise, en quelque sorte, l'Académie des sciences anglaises. Et Merton a beaucoup réfléchi sur la façon et sur les valeurs sur lesquelles se structurait la pratique scientifique. Il en a déterminé quatre, qui sont l'universalisme. Alors, maintenant, on dit le communalisme, mais au départ, on disait le communisme. Après, étant donné qu'il y avait eu la chasse aux sorcières aux États-Unis dans les années 50, c'est difficile de dire communisme. Le désintéressement et le scepticisme organisé. Et ces quatre valeurs, l'universalisme, d'une certaine façon, vous devez produire un discours qui n'est pas rattaché à telle ou telle communauté, mais qui a une visée proprement universelle, c'est ça le principe de la science, vous devez viser l'universalité. Le communalisme ou le communisme, c'est-à-dire que vous formez une communauté et vous devez, d'une certaine manière, vous inscrire dans cette communauté-là et être reconnu par cette communauté-là pour y participer. Le désintéressement, ça rejoint ce qu'on disait sur Bourdieu, sur la capacité à se dégager des pouvoirs, c'est-à-dire être capable de ne pas avoir ses propres intérêts qui sont pris en jeu, mais avoir une forme de désintéressement. Et le scepticisme organisé, c'est le fait qu'au sein de la science, toute production est critiquée par les uns et par les autres, et on va partir du principe qu'on va essayer de trouver les failles dans ce qu'on propose, parce que pour que la science puisse progresser, il faut qu'on puisse produire des énoncés qui soient valides, valables, sur lesquels on peut à nouveau construire de la nouvelle science, et le scepticisme organisé permet cela. Et Merton était attentif à quelque chose de très important qui est aussi, et pas dans ces quatre principes, mais qui est fondateur dans sa façon d'envisager la science, qui est la cumulativité. Et ça va avec le scepticisme organisé, c'est-à-dire que vous pouvez vous organiser collectivement pour vous critiquer à partir du moment où vous reconnaissez un socle de connaissances qui vous permet d'avancer. Et effectivement, les valeurs que Merton propose comme pilier pour la science, l'universalisme, le communisme, le désintéressement et le scepticisme organisé, même si Merton n'est absolument pas un anarchiste ni un libertaire.
On peut les reprendre à notre compte, hein, sans aucun problème.
Oui, elle résonne indubitablement avec des traits libertaires, en particulier le désintéressement, le scepticisme organisé, la critique à égale distance des pairs, l'universalisme. Tout ça, ce sont des valeurs qui font droit à une pratique anarchiste de la science, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est très important parce que la façon dont Merton a pensé cette structuration de la science ouvre la voie aussi à des interprétations multiples, mais aussi elle donne des cadres. Elle permet de réfléchir sur la façon dont on peut organiser un raisonnement rationnel, dont on peut organiser une discussion rationnelle, et donc c'est effectivement quelque chose de très important.
Oui, j'ai malheureusement plus le contexte en tête, là, mais une phrase que j'avais relevée, en science, la controverse est la règle, le consensus est l'exception. Est-ce qu'on peut aussi développer ça? Et puis,
ça, c'est un historien des sciences anglais qui s'appelle Simon Schaeffer, qui l'a écrit dans un ouvrage qui est paru en français, qui s'appelle La fabrique moderne des sciences, qui est paru au Seuil il y a quelques années. Et Simon Schaeffer montre, alors ça, c'est tout un mouvement d'histoire des sciences, qu'on appelait les science studies, les études des sciences, qui montre, qui était d'abord anglophone, mais aussi ensuite qui est arrivé en France, qui montre en particulier que la science fonctionne par la disputation. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on conteste. Hein, c'est le scepticisme organisé, mais érigé au rang de pratique. C'est-à-dire que oui, on va évaluer un texte en étant très critique pour voir et trouver les points de faiblesse. Et Schaeffer montre qu'à partir du moment où on a des discussions tout le temps, le consensus, c'est plutôt l'exception. C'est-à-dire que ça y est, on est arrivé à quelque chose qu'on ne va pas remettre en cause, au moins pour un certain temps. Parce que de toute façon, tout est révisable. Et donc ça, d'une certaine façon, c'est une vision dynamique de la vérité scientifique. C'est-à-dire que toute vérité est révisable, mais sur des bases scientifiques et rationnelles. C'est pas les révisables parce que ça me plaît pas, parce que j'ai plus envie d'en entendre parler. Il faut arriver à produire par un effort rigoureux, soit d'expérimentation, soit de raisonnement, soit les deux, d'arriver à montrer que, ben oui, on a pu faire changer tel ou tel aspect. L'exemple le plus classique, c'est quand Einstein, avec théorie de la relativité, parvient à dépasser le cadre newtonien. Il a des arguments qui sont à la fois intellectuels, de l'ordre du raisonnement. C'est tout le débat autour de ses premiers textes en 1905, notamment dans son fameux article dans les Annales de la physique qui s'appelle « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Il a un raisonnement qui est presque au tout début un raisonnement purement intellectuel. Et ensuite, il a des arguments qui sont à la fois physiques, mathématiques, où il arrive à remettre en cause la théorie de Newton en la dépassant, il l'intègre en la dépassant. Bon, ben là, on a un bon exemple à la fois de quelque chose qui, ben, jusque-là, faisait consensus, et puis, à partir d'Einstein, n'a plus fait consensus, ou en tout cas, n'a fait consensus que localement, mais pour être universalisable encore davantage, il fallait une théorie supplémentaire. Et donc, c'est l'exemple typique d'une forme de consensus, mais qui peut être battu en brèche par de nouveaux arguments. Et ça, je pense que cette phrase de Simon Schaeffer, elle est très, très importante, et dans la perspective d'une science anarchiste, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça n'est pas une autorité qui nous surplomberait et devant laquelle on devrait s'étendre, mais pour la contester, il faut travailler sérieusement, il faut apporter des arguments rigoureux et il faut avoir une forme de rationalité rigoureuse, une forme d'expérimentation rigoureuse, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse dans la mise au jour d'un certain nombre de lois, d'un certain nombre de, de principes qui permettent de comprendre comment s'organise le monde.
On l'a pas tout à fait abordé, même si de temps en temps il y a pu avoir quelques allusions, mais il y a aussi la manière dont fonctionnent les institutions scientifiques, où on sait au sein desquelles il y a quand même des situations de hiérarchie, de pouvoir, de concurrence. Comment le sociologue des sciences que tu es regarde cette situation des institutions scientifiques et de leur fonctionnement?
Mais ça, c'est une des choses qu'on dit dans l'introduction avec Sébastien Plutin, c'est-à-dire. C'est pas question de dire que la science serait par principe un domaine dans lequel l'anarchisme pourrait s'épanouir. Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et en particulier, il y a énormément de limites en fait. Tout ce que je viens de dire, ça veut absolument pas dire que les pratiques scientifiques s'aligneraient par principe sur les principes libertaires. En fait, on sait que le champ scientifique est hiérarchisé, il est travaillé par des rapports de pouvoir, qu'il y a des rapports de concurrence. Il y a, en quelque sorte, à certains endroits, du capital scientifique qui va être cumulé, qui va rendre les choses dissymétriques avec d'autres personnes. Alors, théoriquement, comme le scepticisme organisé devrait régner, tout le monde devrait pouvoir critiquer tout le monde. Alors, en pratique, on sait que c'est pas vrai. Les obstacles autoritaires, ils sont nombreux. On voit, par exemple, on l'a vu pendant le Covid, des gens qui abusent d'un système où on vous dit... plus vous publiez, plus vous êtes cité, plus vous êtes important. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec Didier Raoult et toutes ces soi-disant publications. Bon, on voyait que c'était effectivement énormément gonflé dans le sens où tout le monde dans son groupe saute aussi. Et donc, du coup, il arrive à avoir, d'une certaine façon, à prendre le système au piège en disant, voyez, moi j'ai beaucoup de citations, mais en même temps, ça ne veut rien dire parce que tout le monde saute aussi dans son groupe. Et ce sont des études qui ne montraient pas ce qu'elles prétendaient montrer. Ça a été assez rapidement démontré dans le cas du Covid. Donc on voit bien que là, il y a à la fois, je prends un cas extrême, mais il y a aussi des cas plus classiques de mandarina, de positions d'autorité, qui sont évidemment complètement, qui peuvent être abusifs, qui peuvent montrer que le champ scientifique n'est pas, par nature, spécialement ouvert à une forme anarchiste de fonctionnement. C'est un peu en quelque sorte la résonance avec l'entretien qu'on a fait avec le biologiste et spécialiste de génétique des populations, André Langanet. Alors André Langanet, il est connu du grand public parce qu'il avait fait des chroniques d'abord dans Charlie Hebdo, puis dans Ciné Hebdo et Ciné Mensuel, et il tient un blog qui s'appelle Anarchronique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a, on l'avait repéré. C'est Cavana qui l'avait surnommé d'aider la science en référence à Raymond Lascience dans la bande à Bono. Et on lui a posé la question, de savoir si lui voyait un lien direct entre l'anarchisme et sa pratique scientifique. Et il disait que, en fait, pour lui, non. Le fait que, par exemple, on a intitulé l'entretien avec une formule qu'André Langanet propose sur les contraintes managériales qui sont celles de la science aujourd'hui et qui d'une certaine manière synthétise ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est les contraintes managériales qui s'imposent à nous, c'est si je le savais, je ne demanderais pas de pognon pour faire le job. C'est-à-dire qu'en gros, quand il doit proposer un projet devant les autorités maintenant managériales qui demandent à tout va de justifier tel ou tel projet qu'on veut faire, il faudrait quasiment qu'on ait la réponse au moment où on pose le projet. Or, d'une certaine manière, la science s'est aussi commencé à essayer d'explorer des territoires qui sont pas connus, donc on n'est pas certain du résultat, on n'est pas sûr du tout qu'on va y arriver, et donc par démarche scientifique, on ne peut assurer de rien. On peut échouer, il peut même arriver qu'en échouant, on ait d'une certaine façon exploré une impasse, et que c'est été tout aussi important qu'un résultat qui serait très positif. Donc on voit là que l'impossibilité, par exemple, de se réjouir d'avoir abouti à une impasse, parce que on sait qu'à cet endroit-là, on a prouvé, on a montré que ça n'était éventuellement pas un endroit où on pouvait aller, où on pouvait explorer, où on avait des résultats, un résultat positif. Mais il va être jugé par les instances aujourd'hui managériales de la science comme négatif parce que on n'a pas découvert quelque chose, etc. Et donc, la science, dans sa pratique en particulier actuelle, mais ça fait longtemps que ça, soit elle va provoquer des situations de, comme j'ai dit avec Raoult, de collusion mandarinale extrêmement forte, où on va avoir des gens qui ont des pouvoirs d'autorité démesurés, des hubris comme ça absolument incroyables. Soit on va avoir aussi, et c'est le cas actuellement dans le développement de la science contemporaine, avec toute une bureaucratisation, toute une managérisation qui fait que la science fait bon, bah, on propose des projets dont on vend les résultats avant même qu'on ait pu les obtenir. C'est-à-dire l'inverse de la démarche scientifique. Mais il faut rassurer les managers, il faut avoir des bonnes citations dans les bonnes revues, etc. Et d'une certaine façon, ne pas faire avancer la science.
Nous avions consacré, il y a un an, une émission à ce sujet avec Christian Topaloff et Joël Lallier, les auteurs du livre « Gouverner la science, anatomie d'une réforme », un ouvrage qui était paru aux éditions Agone et dans lequel ils expliquaient bien comment, ce que tu viens de montrer, là, comment les différentes réformes ont mis au pas, en une certaine manière, cette recherche et justement le pognon dont parle André Laganet, qui est devenu donc ces scientifiques qui passent leur temps à monter des projets de recherche pour passer sous les fourches codines des structures ANR, l'Agence nationale de la recherche, pour avoir les crédits pour leur recherche, qui sont de plus en plus orientés vers les résultats qui devraient rapporter le plus vite possible et le plus possible.
Absolument.
On va faire une pause musicale, Lulu, si tout va bien, et on se retrouve dans quelques minutes avec Jérôme Lamy pour continuer de discuter des rapports entre la science et l'anarchie.
Liberté, 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 li
On aura reconnu Liberté, chantée par les Berruriers Noirs. Précédemment, nous avions évoqué le chanteur François Guillemot, un des membres fondateurs du Berruriers Noirs. Et nous en avons dit donc quelques mots. Ingénieur de recherche au CNRS, docteur en sciences historiques et philologiques, et spécialiste de l'histoire politique et sociale du Vietnam contemporain. Toujours avec Jérôme Lamy sur Radio Libertaire 89.4, la société dans tous ses états, sur le dossier donc co-dirigé par Jérôme dans la science et anarchie dans la revue Zilzel numéro 11 de novembre 2022. Alors, dans le dossier, il y a un chapitre très important sur lequel nous allons maintenant nous arrêter, qui est celui consacré à l'archéologie et à l'anthropologie et ses rapports avec l'anarchisme. Il y a un personnage, un anthropologue américain, malheureusement décédé il y a peu, David Graeber, dont j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur à la fois son travail et sur son engagement militant.
Absolument. Alors, c'est Holly Hite et Josh Reno qui lui consacrent un article. David Graeber, qui a été malheureusement décédé en 2020, est une figure vraiment majeure de l'anthropologie. Il a en particulier fait beaucoup de terrain à Madagascar. Et en même temps, c'est quelqu'un qui revendiqué de l'anarchisme. Alors, d'un certain côté, il était à la fois, il étudiait les formes, on va dire, des mouvements émancipateurs, des mouvements progressistes. Il a fait une ethnographie de l'altermondialisme. Il a commencé comme ça. Il s'est aussi intéressé au mouvement Occupy Wall Street, tout en étant acteur du mouvement Occupy Wall Street. Il faut rappeler qu'il a écrit un ouvrage qui a eu un grand succès sur l'histoire de la dette. Et il a, lui, touché de près la difficulté d'associer une position politique progressiste et radicale, anarchiste, et le fait d'être potentiellement privé d'une carrière académique, puisque il a été privé de son poste à l'université de Yale. Il a eu comme ça plusieurs années de flottement avant de pouvoir retrouver sa carrière à la London School of Economics de Londres. Alors, l'histoire de David Graeber, elle est ancrée dans une histoire familiale qui, sans être anarchiste, était quand même très marqué par la politique. Son père a combattu dans les brigades internationales, mais lui-même précise, David Graeber a précisé dans ses textes que ses parents n'étaient pas libertaires, mais que, au moins dans sa famille, on ne dépréciait pas l'idée libertaire. Et en fait, il va découvrir vraiment l'anarchisme en pratique, d'une certaine façon, lors du mouvement contre l'Organisation mondiale du commerce en 1999.
Seattle.
Ouais, voilà, le grand mouvement contre l'OMC. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'expliquent Holly Hite et Josh Reno, c'est par la pratique, d'une certaine façon, par le fait de s'engager dans des groupes militants, de participer, de manifester, d'organiser, on va dire, la lutte, bien plus que par l'aspect intellectuel qui rentre dans l'anarchie. Les enjeux, c'est comment on s'organise, comment on met en place ici immédiatement des voies alternatives. Comment est-ce que, on se déplace, on suit telle ou telle personne, on va essayer de contrer tel ou tel discours, on met en place une manif, on essaye de bloquer telle ou telle chose. Mais d'une certaine façon, il a publié un livre qui s'appelait, alors en anglais, Fragment d'une anthropologie anarchiste, et c'est pas par hasard qu'il s'appelle Fragment, parce que c'est ce que montrent Hite et Reno. On peut penser que finalement Graeber ne croyait à l'anthropologie anarchiste que sous des formes de fragments, que sous la forme fragmentaire. Pour lui, il y avait en gros trois mouvements qui étaient potentiellement prometteurs. Il a beaucoup étudié le mouvement altermondialiste dans lequel il était engagé. Donc ça, c'était un premier point qui semblait, notamment dans l'auto-organisation, dans la capacité à voir les points du pouvoir, les points d'inflexion sur lesquels on pouvait agir pour lutter contre le pouvoir. L'autre chose dans lesquels il voyait un intérêt tout à fait intéressant pour l'anarchisme et pour la lutte anarchiste, c'était la lutte contre l'absurdité du travail contemporain. Il a popularisé le terme de bullshit job, les jobs de merde. Mm-hmm. Et puis l'autre chose qui l'intéressait beaucoup, c'était toutes les formes de démocratie dans lesquelles dont il invitait à comprendre la pluralité. Il voyait dans l'État quelque chose qui, d'une certaine manière, pouvait ne pas être une fin en soi, et ça c'était évidemment une pensée anarchiste, mais lui, il l'appliquait en particulier à ses travaux anthropologiques et à ses travaux aussi concernant l'archéologie. Là, j'avance un peu sur l'article que Bill Engelbeck consacre à l'archéologie, mais c'est lié parce que David Graeber a livré un livre absolument considérable avec un archéologue qui s'appelle David Quengrow. Qui est paru l'année dernière, qui est un ouvrage absolument considérable. C'est une espèce de synthèse de plus de 600 pages sur les formations archéologiques, on va dire, les plus anciennes, entre le néolithique et le début de l'écriture. Et il montre quelque chose qu'un autre anthropologue montre aussi, qui s'appelle James Scott, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas obsédé par l'État comme étant la forme suprême d'organisation des sociétés, mais qu'on essaye de regarder comment s'agencent les sociétés de façon plus fluide, eh ben, on ne va pas considérer que l'État est la forme absolue à partir de laquelle on va trouver des restes archéologiques qui nous permettent de dire voilà, ça y est, on avait une société qui est parfaitement organisée parce qu'elle avait un État. Souvent, on avait tendance à dire, voyez, regardez, cette société-là, elle était arrivée d'une certaine façon à l'acmé de son développement parce que, eh bien, elle avait telle ou telle structure qui faisait qu'elle ressemblait à un État. Et puis ensuite, bon, elle s'est délitée, elle n'existait plus parce que c'était pas un État. Et Wengrove et Graeber montrent que, à partir du moment où on regarde vraiment finement ces sociétés dont on dit qu'elles se délitent parce qu'elles n'ont plus d'État, on s'aperçoit que ces sociétés, elles avaient une forme de félicité sociale, elles avaient des formes pluralistes d'organisation, elles avaient aussi un pouvoir central qui parfois était totalement amoindri ou qui était sans conséquence ou que les gens ne respectaient pas. Donc ça résonne avec évidemment d'autres travaux hein, qui sont
Clastre,
évidemment Pierre Clastre qui avait publié en 1977 La société contre l'État, c'est-à-dire cette idée que non, la centralisation et la forme du pouvoir centralisé par l'État, c'était peut-être pas une fin en soi. Que peut-être que si on a un regard anarchiste, et c'est là où on peut parler de fragments anarchistes avec David Graeber, peut-être qu'à partir du moment où on a une vision anarchiste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'État la fin en soi, on peut peut-être discerner dans les restes archéologiques et dans l'histoire des formes d'organisation du monde social qui sont fluides, peuvent se délester d'un certain nombre de formes d'autoritarisme, d'un certain nombre de relations d'autorité de pouvoir et de domination, et d'une certaine façon rendre notre vision beaucoup plus riche des sociétés passées. Et c'est un peu la morale du livre de Graeber et Wengrove, c'est de dire, attention, les sociétés plus anciennes, elles ont testé beaucoup de choses en termes d'organisation sociale. Et elles n'ont pas testé que des formes autoritaires, elles ont aussi testé des formes anti-autoritaires, des formes où on remettait le pouvoir au centre. Alors évidemment, leur livre est un panorama exceptionnel entre la Mésoamérique, l'Égypte, ce qui se passe au niveau de la Mésopotamie, donc une richesse de consultation des sources qui est absolument formidable. Et il montre effectivement qu'il y a un certain nombre de sociétés qui se côtoyaient et qui n'avaient pas du tout les mêmes formes sociales d'organisation, les mêmes rapports au pouvoir, et que si on a un regard anarchiste, alors on peut commencer à se dire que oui, il y a eu des formes d'organisation sociale qui semblaient grosso modo prospérer, mais pas sur les bases d'un État. Et c'est une forme finalement, c'est un moyen de faire avancer la science que d'avoir ce regard anarchiste-là, de ne pas penser que l'État est une fin en soi, de ne pas penser qu'il aura été, cette forme de concentration du pouvoir, la réalisation totale et absolue des groupes humains. Et donc ça, c'est donc à la fois Bill Engelbeck dans son article, et Holly Hyde et Josh Reno qui le montrent concernant Graeber, mais il y en a beaucoup d'autres en ce qui concerne les archéologues.
Oui, alors là, j'aimerais aussi qu'on vienne à cette partie du dossier sur l'archéologie et ses rapports avec l'anarchisme. Et là, c'est très très sensible. Autant dans les sciences dites dures ou dans les sciences physiques, etc., on peut difficilement mettre en avant donc l'aspect proprement anarchiste de la physique ou des mathématiques, par exemple. Autant là, dans l'archéologie, on a vraiment une approche tout à fait différente, et ce qui est bien expliqué dans l'article, c'est que le regard de l'archéologue ou des archéologues sur leur champ d'études peut-être complètement différenciés selon qu'ils l'abordent avec des structures de type étatique dans leur tête ou au contraire avec des préconceptions anarchistes. Est-ce qu'on peut essayer de développer un petit peu cet aspect ?
Complètement. Alors c'est ce que montre très bien Bill Engelbeck dans son article. Il prend un certain nombre d'exemples. Il y a des études, par exemple, d'un archéologue qui s'appelle Daryl Wilkinson, qui montre que les géoglyphes, les grands dessins, vous savez, qui sont au sol, qui sont vraiment de très grande taille, dans les Andes.
Les Nazca, c'est ça, hein ?
Voilà, c'est ça. Qui sont dans les Andes, lui, il le montre comme un moyen de renforcer les liens communautaires. Pourquoi ? Parce que ce sont des monuments qui sont au ras du sol et qui sont plutôt des contrepoints aux mouvements centralisateurs qui vont créer des pyramides, des monuments qui vont plutôt s'élever vers le ciel, qui vont avoir des formes de représentation du pouvoir très concentrées. Et il y a d'autres exemples, une série d'archéologues qui sont intéressés d'un point de vue anarchiste à la période de l'âge de fer, donc, c'est-à-dire entre 3000 et 1500, enfin il y a 3000 à 1500 ans. Et les différentes recherches montrent que pour cette période, les relations de pouvoir sont à chaque fois extrêmement complexes, très riches. En fait, ils montrent ces archéologues, que le fer à ce moment-là, c'est pas une ressource rare et que d'une certaine manière, le fait d'en capter, ça n'entraîne pas une concentration des pouvoirs. Et qu'on a plutôt une forme de rejet de la centralisation.
Contrairement au bronze.
D'où une grande richesse dans les formes d'organisation de ces collectifs humains qui ne s'appuient plus là sur la mobilisation d'une ressource rare qu'on va concentrer, qui va donner naissance à des stratifications sociales très intenses. Là, non. On a des formes de pouvoir qui existent. On a des formes de société qui peuvent être un peu hiérarchisées. Mais en tout cas, le fait que le fer ne soit pas une denrée rare, ne soit pas une ressource rare pour fonder cette société-là, eh bien, ça oblige à aplanir, en quelque sorte, les relations de pouvoir, à aplanir les hiérarchies. Et Bill Engelbeck insiste bien que la perspective anarchiste qui permet de pluraliser les analyses. Là, on est au cœur. C'est pas simplement mettre l'anarchie au centre de ses préoccupations. C'est parce que l'anarchie permet de pluraliser les analyses et d'être attentif à des configurations qui sont larges dans l'organisation sociale.
Alors, et là, on voit effectivement que la préconception de ces archéologues qui viennent avec ces idées-là permettent de mettre au jour des notions tout à fait intéressantes et on va s'apercevoir que les sociétés des sociétés anciennes dont on pouvait penser qu'elles étaient organisées à peu près comme les nôtres ont adopté des modes d'organisation assez libertaire, on peut le dire. Enfin, même si il faut faire attention aux anachronismes, on peut pas plaquer des conceptions d'aujourd'hui sur des groupes sociaux ayant vécu il y a quelques millénaires. Mais en tout cas, on apprend donc de ces recherches que des sociétés ont pu expérimenter des formes d'organisation très diverses et il n'y a pas une forme de d'évolution téléologique qui mènerait forcément des hordes barbares primitives vers la société hyper hiérarchisée.
Absolument, c'est exactement ce que montre Bill Engelbeck, c'est exactement ce que montre le livre de David Graeber et David Weinbaum, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on a plutôt eu tendance, un certain nombre de sociétés ont eu tendance à tenter des expériences de formes d'organisation sociale et elles n'ont pas systématiquement privilégié la concentration des pouvoirs, la hiérarchie, etc. Et que parfois, quand il y avait même un chef ou un représentant, il pouvait avoir un pouvoir qui était localement extrêmement limité, mais au-delà de ça, et il le montre notamment pour Weingrove et Graeber le montrent pour la Mésoamérique, mais une fois ce territoire assez local dépassé, toutes les personnes qui étaient dans cette communauté humaine, d'une certaine façon, rejetaient ce pouvoir royal ou rejetaient ce pouvoir du chef, ne tenaient pas compte des ordres, etc. Donc on a des sociétés qui, même dans la conception du pouvoir, non pas simplement même dans l'État, mais même dans la conception du pouvoir, ont eu une réflexivité, ont eu un rapport au pouvoir qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus distant, et d'une certaine façon, alors le fait de penser, d'avoir une pensée qui ne va pas placer l'État et les relations que l'État draine et structure comme étant, on va dire, une finalité, permet de voir et de discerner finalement cette espèce de pluralité. Et d'une certaine façon, ça peut à la fois intéresser la pensée anarchiste, parce que ça montre que cette pluralité, qui n'est pas systématiquement libertaire, mais cette pluralité dans la façon de considérer l'organisation des sociétés humaines, elle offre d'une certaine façon un répertoire très riche penser, qui est bon à penser, pour essayer de comprendre comment, évidemment, à la fois nos relations de pouvoir aujourd'hui peuvent être soit dépassées, soit contestées, mais aussi comment on peut et on doit pluraliser les formes d'organisation des sociétés humaines aujourd'hui, puisque d'une certaine façon, ça s'est fait pendant longtemps, et ces tests-là, alors tous les tests, tout ce que Wengrove, par exemple, et Graber montrent, c'est que tous les tests n'aboutissent pas à des sociétés plus libres, etc. Il y a aussi des tentations d'autoritarisme, etc. Mais ils montrent aussi une chose, c'est que les pouvoirs très autoritaires, très concentrés, ils finissent relativement mal, en fait. Donc c'est aussi une leçon anarchiste qui peut être retenue et qui peut être intéressante et que nous peut être intéressante et que nous donne ces découvertes archéologiques fondées sur un regard qui effectivement est libertaire dans le sens où il ne va pas faire de l'expression du pouvoir absolu par un État et un ordonnancement d'une bureaucratie le principe de réalisation d'une société parfaite. Ça c'est, je pense, un biais ethnocentrique qui consiste à voir dans les sociétés avancées, dans les sociétés qu'on dit avancées, la forme, on va dire, terminus. On a atteint la forme la plus optimale de la société. Dans un monde capitaliste, organisé, très militarisé, effectivement, un pouvoir très centralisé, c'est peut-être ce qui permet de faire tout tenir, mais c'est peut-être pas le but en soi. Et justement, le regard anarchiste de ce point de vue-là, il est tout à fait intéressant sur l'archéologie.
J'aimerais que tu nous rappelles cet exemple. Je me souviens plus du nom de l'anthropologue qui a décrit cette société des Indiens des plaines, dans les actuels États-Unis, qui était organisée de manière tout à fait libertaire pendant les trois quarts de l'année. Puis au moment de la chasse au bison, hop, il y avait une police.
Oui, alors ça, c'est. Il y a cet exemple-là pour les Indiens des plaines américaines, mais globalement, c'est aussi ce que montrent Wengrove et Graber dans leur livre. Il y a aussi des alternances dans certaines sociétés entre les moments de la chasse ou les moments il y a certains moments dans l'année où on va avoir des groupes communautaires organisés selon des hiérarchies pour accomplir une tâche, par exemple ici la chasse, mais ça peut être d'autres principes, ça peut être des principes de l'agricole, et puis ensuite ces groupes vont se dissoudre, reprendre des pratiques de chasseurs-cueilleurs plus dans des groupes plus petits, plus fluides. Qui s'organisent indépendamment et qui ensuite, pour des raisons de regroupement collectif, vont refaire dans l'année ces moments de chasse en commun ou d'organisation commune autour de l'agriculture, puis ensuite se dissoudre à nouveau. Et on a ces alternances-là. Alors, elles sont difficiles à penser pour nos sociétés contemporaines, difficiles à penser parce qu'on n'est pas du tout organisé comme ça et qu'il y a eu toute une histoire de structuration des sociétés humaines. Il suffit de penser à la façon... Un de mes doctorants qui s'appelle Comme Souchier, qui travaille sur la façon dont le temps est devenu une forme de gouvernementalité, c'est-à-dire comment le temps a été organisé pour nous, d'une certaine manière, discipliner les sociétés et organiser et rentrer dans l'intérieur de nos vies complètement et qu'on est complètement organisé par le temps. Eh bien, il faut savoir que ça a été très compliqué pour ceux qui, au 19e siècle, au XVIIIe siècle en Angleterre, au XIXe siècle en France, au moment de la révolution industrielle, essayer d'imposer aux ouvriers qui venaient des campagnes des horaires extrêmement précis, essayer de leur proposer quelque chose, enfin de leur imposer quelque chose qui était des horaires liés aux machines, liés au fonctionnement des machines. Et c'était très compliqué. Les ouvriers parlaient par exemple, quand ils voulaient pas travailler le lundi, parlaient du saint lundi. Donc c'est une expression qui est connue.
Qui est restée.
Dans les milieux anarchistes, dans les milieux progressistes et dans les milieux ouvriers. Et donc on voit bien que ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que cette idée de coaguler des groupes humains sur des grands territoires, en ordonnant finalement de manière très fine, en ayant un maillage très fin de leurs activités, en les engageant dans des activités extrêmement avec une forte division des tâches, c'est une construction qui est très longue. Et les exemples, par exemple, des Indiens, des plaines américaines, qui sont capables de se dissoudre dans leur groupe, puis de se recomposer pour faire des tâches communes, ça montre à quel point la pluralisation des formes d'organisation de la société a été poussée de manière, dans un sens qui ne nous est pas commun, qui ne nous est pas évident parce qu'on vit imprégné de cette organisation sociale qui est la nôtre, mais qui a été longtemps une forme de pluralisation, de test pluraliste des formes d'organisation sociale les plus les plus larges, en fait, d'une certaine façon.
Je me suis souvenu, pendant que tu nous parlais donc de ces rapports au temps, des premières lignes d'un ouvrage de Jacques Rancière qui décrit une émeute. Et pendant cette émeute d'ouvriers, donc au tout début du XIXe siècle, les émeutiers vont détruire les horloges.
Oui, absolument. Oui, c'est ça. Il faut se souvenir que ça, c'est une des formes d'enrégimentement et de cadrage par l'État qui est un des effets les plus puissants.
Nous, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais savoir sur quoi tu travailles actuellement. Est-ce qu'il y a un prolongement à ces recherches sur les rapports entre science et anarchie, ou est-ce que tu es passé à un autre domaine de recherche dans ton champ d'activité?
Alors, de toute façon, la question anarchiste m'intéresse et je travaille en particulier avec quelqu'un qui s'appelle David Hamelin, qui travaille beaucoup sur les bourses du travail. Et on réfléchit beaucoup sur ces questions-là, donc ça continue de nous animer. On avait, en 2019, avec David, on avait dirigé un numéro de la revue Actuel Mar, qui s'appelait « L'anarchisme, cet autre socialisme », où on avait un petit peu interrogé les racines historiques de l'anarchisme du point de vue des théories socialistes du XIXe siècle. Donc ça continue de m'animer. Et là, avec Arnaud Saint-Martin, donc, que vous aviez reçu, on travaille... Alors, ça dépasse le cadre anarchiste, mais on s'y intéresse aussi à une histoire populaire de l'astronomie, dans laquelle on va forcément recroiser la question anarchiste, la question émancipatrice, notamment à travers cette fois la popularisation des savoirs, qui nous semble une question tout à fait importante, et avec deux autres collègues, donc Florent Mathieu qui a participé au dossier, et un autre collègue qui s'appelle Volmifage, on travaille actuellement sur la figure de Louise Michel et de ses savoirs au prisme de l'anarchisme. Donc ça, c'est un peu les pistes de recherche en ce moment sur lesquelles on travaille, à partir d'archives, à partir de documents qu'on essaye de retrouver, et on s'aperçoit qu'il y a actuellement une extrême richesse des études anarchistes qui ne connaissent pas une structuration comme elles peuvent la connaître, comme ils peuvent la connaître dans les pays anglophones, mais qui montrent la vivacité de l'intérêt pour l'histoire de l'anarchisme, pour la sociologie de l'anarchisme, et qui est, à mon sens, revitalisant, parce que ça permet d'une certaine façon, d'ébranler les cadres de pensée, de changer l'optique du regard sur la façon de considérer les institutions, les formes de société déjà ancrées, les manières de transmettre les savoirs qui soient anti-autoritaires, et ça permet de repenser. Il y a une vraie actualité, il nous semble important, et c'était un peu le but du dossier, de la mettre en avant et de montrer que voilà, il y avait des formes contemporaines de réflexion autour de l'anarchisme, c'était plus vif que jamais.
Merci à toi, Jérôme Lamy. Tu me donnes donc matière à une prochaine émission à laquelle je t'inviterai, concernant, entre autres, Louise Michel, à travers les nouveaux travaux sur ces manuscrits qui viennent d'être découverts. Encore une fois, je te remercie. Je rappelle le dossier qui s'intitule « Science et anarchie », paru dans le numéro 11 de la revue Zilzel, novembre 2022. Revue Zilzel qu'on peut trouver sur Internet, sur le site des éditions du Croquant. Encore une fois, merci et à très bientôt. Je laisse l'émission suivante, le monde merveilleux du travail, nos camarades de la CNT présenter leur émission. Au revoir Jérôme et merci encore.
Merci beaucoup.
est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation de la CNT région parisienne pour le monde merveilleux du travail, comme chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicat.